بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين شفاء الإسلام نغميس الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour la salat al-Isha accomplie en congrégation, en jama'a, pour parler du dîn d'Allah Rabbul Izza, du dîn d'Allah Azza wa Jal. Et avant de commencer le tafsir, chacun compléter sa salat, j'observais un frère qui était en train de faire des invocations, en train de faire dua, hein, qui était pas loin de moi, et je regardais cette personne, des doigts, tout le monde le fait. Je fais doigts, Noir, Youssouf, Bilal, tout le monde fait doigts. On fait tous des invocations. Personne ne faisait doigts, les yeux, on voit la concentration et tout. Puis je me dis, subhanallah, quand on voit un serviteur en train de lever les mains, implorer Allah Azza wa Jal, mais qu'est-ce qui se passe dans son cœur à ce moment précis? C'est là que nous comprenons la réalité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, Ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation, le doigt, c'est ça la véritable ibada. C'est ça le vrai lien avec Allah, le véritable acte d'adoration. Parce que quand je lève mes mains et que je suis en train de fermer les yeux, les sourcils un peu repliés, demander quelque chose à Allah Azza wa Jal avec concentration, avec dévotion, c'est que quand je formule cette parole, j'ai la conviction que Allah qui est au-dessus des cieux, Al-Mustawa Al-Arsh, Allah qui est tellement élevé, Allah Azza wa Jal m'entend. Alors que quand je demande du'a, c'est pas d'un micro, hein. C'est pas on met des buzz et puis tout le monde va entendre, les anges vont entendre, non. Et quand je demande du'a, en général, on n'est pas censé entendre ce que la personne dit. Quelqu'un à côté, on murmure. Et ce qui est ajib, c'est qu'on murmure. On est en train de demander à Allah quelque chose et on a la conviction que Allah Rabbul Izza, Allah est Sami'. Allah est Basir, Allah est Alim, et surtout, ou alors, pour toi également, je ne vais pas dire surtout, et Allah est Qadir, ala kulli shayin Qadir, ala kulli shayin Wakil, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu, kun fayakun. C'est-à-dire que quand ce croyant enlève les mains et demande droit, et Allah seul sait ce qu'il demande, ça peut être la santé, ça peut être le bien-être, ça peut être la protection, ça peut être la bénédiction, baraka, dans son travail, dans les études, ou dans la vie de famille, ou chacun il connaît ses besoins. Ben, à ce moment précis, la personne est consciente, ça c'est un vrai dua. Yani, il faut que ces conditions soient réunies pour que ce soit une vraie dua, une vraie invocation. Être conscient qu'Allah est Samir, Allah m'entend à ce moment. Même si mon frère est à côté de moi, il ne m'entend pas, il ne sait pas qu'est-ce que je demande, mais Allah Azza wa Jal m'entend. Allah Azza wa Jal Basir me voit. Il voit que je suis en train de demander doua. Et qu'Allah Azza wa Jal, surtout, on est conscient qu'Allah est Qadir. Ala kulli shay'in Qadir. Allah Azza wa Jal est capable de tout. C'est Allah qui prend toutes les décisions. Autrement, si on n'avait pas cette conviction, ben, on ne demanderait pas doua à Allah. Et qu'on a la conviction en même temps que il suffit qu'Allah ordonne, c'est fayakun, kun fayakun. Allah ordonne et tout s'exécute. C'est pour ça que le prophète Ali salat wa salam nous rappelle que le doua c'est la véritable ibada, le vrai acte d'adoration, parce qu'à ce moment-là, on prend conscience de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah, et en même temps, on prend conscience qu'on est rien, qu'on ne représente strictement rien, qu'on est capable de rien. Je vais demander à Allah Azza wa Jal quelque chose que financièrement je peux acheter, que je peux faire théoriquement avec mes propres moyens, mais on est conscient qu'en réalité on ne peut rien sans l'agrément d'Allah, sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ça c'était une petite parenthèse pour que nous apprenions, mes chers frères, à vivre notre religion avec dévotion et concentration, avec clairvoyance. Le doigt, il y a plein de gens qui font doigt. Il y a des gens qui font doigt comme ça, ils lisent des doigts qui sont pris par cœur, ils lisent les Rabbana, 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 sans vraiment penser qu'est-ce qu'ils sont en train de demander. Il y en a d'autres qui, comme on a dit tout à l'heure, ils demandent avec cette dévotion, cette concentration, cette prise de conscience, cette reconnaissance de la grandeur d'Allah. Après, il y en a d'autres qui, malheureusement, ils suivent. Des gens, ils font doigt, ils disent Amin, Amin, et puis ils ne pensent même pas. Alors que c'est une occasion exceptionnelle, ça, de demander doigt à Allah. C'est quelque chose d'énorme, ça. On avait expliqué ça dans une assemblée, je ne sais pas ici ou ailleurs. C'est comme si qu'Allah, à chaque fois qu'on lève les mains, c'est qu'Allah, Rabbul Izza, nous accorde une audience. Nous accorde une audience. Imaginez, et l'exemple est décalé, hein, tous les exemples qu'on va essayer de donner pour comprendre la grandeur d'Allah, c'est décalé. Imaginez quelqu'un a un problème avec la justice, un petit problème, d'accord? Et que le ministre de la justice, on ne parle pas de politique là, mais le ministre de la justice de passage à Saint-Denis, d'accord ici? Et que le ministre de la justice entend parler que lui il a un tout petit problème, il n'a pas déclaré ses impôts comme il fallait, ou alors il a arrondi un petit peu, il n'a pas tout déclaré, un petit truc, d'accord? Que le ministre entend parler de ce problème qui est infime, d'accord? Et il dit, bon, je reçois cette personne, je vais écouter quelles sont ses doléances. On se dit que, waouh, c'est une occasion en or, c'est une occasion extraordinaire, le ministre de la justice qui va donner les ordres au juge et ainsi de suite, enfin, comment ça se passe, je ne sais pas, il me reçoit et il va écouter mon problème, mes doléances, et il va certainement accepter ce que je demande. Qui c'est qui ne souhaite pas sur l'occasion? Qui c'est qui ne souhaite pas sur l'occasion? Des cas un petit peu plus concrets, quelqu'un reçoit un courrier hein, de la CAF ou je ne sais pas quoi, il vous demande un rattrapage parce qu'on vous a, il y a eu un trop PSU. Mon Dieu, ça c'est les cauchemars de tous les pays de famille ça. Un trop PSU, vous devez 2000 euros à la CAF. Maman, c'est pas comme Monopoly ça. C'est pas comme Monopoly, passer par la case de départ, vous recevez je ne sais pas quoi et tout. Non, non, ça c'est quand vous recevez ce courrier, il faut rendre, d'accord? Et que le prix, je ne sais pas qui c'est qui gère ça, mais le ministre de je ne sais pas quoi, des finances, je ne sais pas quoi, dit écoutez, venez monsieur un tel, écoutez-moi votre problème, écoutez-moi, dites-moi, on va régler ça en 2 secondes. C'est l'homme le plus haut gradé dans la pyramide. Vous vous dites que waouh, j'ai une chance exceptionnelle. Je vais parler au ministre de ce qui me chagrine, ce qui m'inquiète, et avec ça, je suis sûr que il va donner l'ordre et puis ils vont exécuter. On a conscience de ça. Maintenant, quand on sait que quand je lève les mains, je demande à Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur de l'univers, celui qui ordonne et que tout s'exécute. Celui qui a dans ses mains ma santé, mon bien-être, c'est-à-dire tout est dans ses mains. Donc, on a la possibilité de lui faire parvenir nos demandes uniquement avec le cœur. Tout simplement, je voulais dire, avec notre cœur, avec nos paroles, c'est la magie qu'il y a dans les invocations. Et Allah Azza wa Jalla dit « Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni » فَإِنِّي قَرِيبٌ Allah Azza wa Jalla est proche, il répond, il accepte, ou dit وَدَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَنْ lorsqu'on l'invoque. Donc ça, cette petite parenthèse, c'est pour que nous apprenions, comme j'ai dit, à vivre avec intensité et ferveur notre islam au quotidien. Aucune action qu'on accomplit doit être anodin, doit être quelque chose de cumulé. On fait tout le temps, on le répète, sans vraiment réaliser. Non, enfin, chaque fois qu'on retrouve la saveur, le nectar qu'il y a dans chaque ibadah, et c'est comme ça qu'on va avoir plus de dévotion, et c'est comme ça qu'on aura encore plus de motivation, et on ne sera jamais lassé. Bien. Donc, on a lu quelques versets de At-Takwir, Il-Ash-Shamsu Kuwirat, qu'on a vraiment beaucoup de mal à compléter, hein. À chaque fois qu'on reprend, on reprend. Donc, on avait vu, je crois, il y a 3 semaines, A'ilimat naf summa ahdarat, chaque âme, verset 14, sera ce qu'elle a présenté. Ouais, il me semble qu'on avait expliqué ça avec pas mal de détails. On avait refait encore un programme spécial sur la relation qu'il y a entre mon niya, mon intention, l'accomplissement de l'action, les conséquences de l'action qui peuvent y avoir dans ce monde, ou alors, et ça c'est le pire, dans l'au-delà. L'aboutissement de l'action, c'est devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal. Je dois être conscient que chaque On va parler des péchés dans un premier temps. Chaque péché que j'accomplis a une conséquence dans la façon que Malik al-Maud reprend mon âme. Vous le saviez ça? Chaque péché que j'accomplis va influencer la manière que, la façon dont mon âme sera retirée. Parce que chaque péché que j'accomplis
fera de moi, m'éloignera un peu plus d'Allah Azza wa Jal. Oui ou non? Les péchés nous éloignent d'Allah. Et donc, si on est quelqu'un qui est éloigné d'Allah, on est, qu'Allah nous protège, un fasiq, un pécheur endurci, comprenons que l'ange de la mort ne reprend pas l'âme d'un homme pieux comme il reprend l'âme d'un pécheur endurci. Donc déjà, je dois prendre conscience que je choisis la façon dont je veux mourir, quitter ce monde. Également, chaque péché accompli a une conséquence dans ma vie, dans la tombe. Dans le monde de Barzakh, le monde de la tombe, les bonnes actions se retrouvent auprès de Sahibi, auprès de son auteur, auprès du croyant, mais les péchés également viennent nous retrouver. Donc, si je cumule les péchés, ben, je complique ma vie, ma situation dans la tombe. Chaque péché que j'accomplis a une influence directe sur la manière dont je serai ressuscité. Il y en a qui seront ressuscités ma'a an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa as-salihin. Ça c'est le top, être avec les prophètes, les shuhada, les martyrs, les véridiques et les hommes pieux. C'est, n'est-ce pas le rêve de chaque croyant, Ibrahim? N'est-ce pas notre rêve à nous? Bien sûr que oui. Et quand je fais de bonnes œuvres, je me rapproche de cette situation, je me donne en Dieu mes les chances d'être réellement avec eux le jour de Qiyam. Maintenant, comprenons bien que ce n'est pas tous les musulmans qui seront ressuscités avec Abu Huraira, avec Abdurrahman bin Auf, avec Omar bin al-Khattab, Abu Bakr al-Siddiq. Bien sûr que non. C'est les meilleurs, ceux qui avaient le comportement qui se rapprochait le plus d'eux, de ces gens. Ceux qui avaient la lecture du dunya, la compréhension du dunya, la compréhension du akhira, la compréhension de la religion, du din, qui était le plus proche de ces gens-là. Et donc, on avait vu dans Waidan Nufus Zuwijat, tout à fait, encore un peu avant, que les gens, un des commentaires qui est cité par un des Mufassirines, c'est que les gens seront ressuscités par catégorie. Les pieux avec les pieux, les pécheurs occasionnels avec les pécheurs occasionnels, les pécheurs endurcis avec les pécheurs endurcis, et bien sûr ceux qui n'ont pas la foi, ils seront avec ceux qui n'ont pas la foi. Donc, chaque péché que j'accomplis a, d'une certaine façon, une conséquence dans la façon que je serai ressuscité le jour de Qiyam. On va aller un peu plus vite. Ça a également une conséquence dans la manière dont je vais découvrir mon livret de compte. Kitaban yalqahu manshura. Et quand Allah Azza wa Jal va nous dire Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre aujourd'hui, en ce sens, c'est toi qui es le comptable, c'est toi qui fais tes comptes. Dans la manière, quand je vais découvrir mes actions, feuillet 1972, feuillet 1973, 1980, 2000, 2013, 2014, 2025. Donc plus j'accomplis de péchés, plus je vais rendre ce moment difficile. Avez-vous déjà, avons-nous, on s'interpelle tous, est-ce qu'on a déjà réfléchi à ce moment où mon livret de compte m'est remis et que mes yeux, mon regard se pose pour la première fois sur mon livret de compte? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens? À nous de voir quel comportement, de quelle façon je veux vivre ce moment. Est-ce que ça va être un moment de joie où je découvre quantité de hasana, de bonnes œuvres, et que je constate aussi que les péchés n'y sont pas? C'est-à-dire qu'Allah nous a déjà pardonné de ce dunya. Ça c'est, mashallah, le scénario idéal. Ça c'est vraiment le croyant ressuscité le plus heureux. Maintenant, si je cumule des péchés, je vais rendre ce moment difficile. Et tout ça, personne ne me force. C'est pas qu'on dit, lui, son destin, c'était d'être un pécheur, il soit ressuscité avec les pécheurs. Non. Ça c'est le choix que chaque croyant va faire dans sa vie. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on comprenne bien, et les autres étapes aussi. La manière de recevoir le livre, main droite ou alors gauche, derrière le dos. La manière de passer sur le sirat, et ainsi de suite. Et enfin, l'aboutissement, le degré que j'aurai, soit de le jannah, soit de le jahannam, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, le but, c'est quoi? C'est qu'on arrive à comprendre la manière que je mène ma vie de façon intelligente. Et quand je dis intelligente, ce n'est pas l'intelligence que la société veut de nous. C'est-à-dire qu'on réfléchit comme quelqu'un qui fait des économies ou quelqu'un qui voit loin pour investir, pour gagner, pour gérer ses biens, ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le regard intelligent, c'est le regard du croyant qui réalise que chaque action que j'accomplis, ben, il y a un aboutissement dans l'au-delà. Mes chers frères, ça c'est des paroles simples, ça. Si j'ai réalisé ça, je suis sauvé. Parce que j'ai compris comment il faut vivre. Et avec ça, on n'a plus besoin de grands discours. Et donc, qu'est-ce qui nous ramène vers ce développement? C'est ce verset « Alimat nafsumma ahdarat ». Et ça, c'est quand? C'est le jour du mahjar, le jour de Qiyama. Chacun va voir qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il a amené. « Ahdara yuhbiru » c'est « amené ». Quelqu'un qui est présent, c'est « hadir ». Vous connaissez « hadir » D'accord? On fait l'appel « hadir », je suis présent. « Ahdara » ça vient de « afa'ala », c'est « faire, faire, faire ». C'est-à-dire qu'est-ce que tu amènes? Vous voyez, la connotation, elle est importante. Si tu regardes, c'est comme si on dit qu'est-ce que vous avez de vos bagages? Quand vous passez la douane, qu'est-ce que vous avez de vos bagages? Quand le douanier ouvre la valise, il voit des trucs. Vous ne pouvez pas dire que, qu'est-ce que c'est dans ça? Comment c'est venu dans ma valise, ça? D'accord? Par exemple, c'est à Noël, ça revient de Maurice. S'il achète 20 boîtes de fromage Kraft, haram, ça, non? Interdit. Combien il gagne? 2, non? Ou 3? D'accord? Encore, je suis gentil, hein, je n'ai pas dit qu'il amène 5 cartouches Gladstone. Non, non, ça, cigarette, non. Hein. Il amène 20 fromages Kraft ou 20, allez, des trucs qui ne sont pas bons, stupéfiants, on connaît, une petite drogue douce, ainsi de suite. Le douanier dit, monsieur, ça c'est illégal. Est-ce qu'il va dire, je ne sais pas, comment c'est venu dans ma valise? C'est vraiment incompréhensible. C'est bien toi qui l'as mis. Ahdarta, c'est toi qui l'as amené. C'est-à-dire, tout ce que tu as amené dans ton récipient, dans ta valise, dans ta sacoche, ainsi de suite. Le Qiyama, pareil. On n'a pas à s'étonner. Comment ça, j'ai fait ce péché? Au nom de quoi? C'est toi qui as pris la décision. Tout comme c'est lui qui prend l'objet de délit, mais dans sa valise, il ferme sa valise, il enregistre le bagage. Ben, le jour de Qiyama, dans Suhuful A'mal, les actions que je retrouve, c'est les actions que j'ai amenées. C'est les actions de ce que j'ai fait le choix d'emmener. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu avant. Et mes chers frères, ça fait partie des versets essentiels à retenir, à mémoriser. Et l'on fait d'une parole magnifique en conclusion de Alimat nafsumma ahdarat, d'une parole Allahu Akbar. Fayambari bal yajibu ala l'insan. Donc il dit que c'est un devoir. Et dit non, c'est plutôt une obligation sur chaque être humain. أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة, de réfléchir, de méditer sur le sens de ce verset et de comprendre ce qu'il y a comme maw'idha, de comprendre ce qu'il y a comme mise en garde, comme rappel très fort. وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين. Et il doit avoir conviction sur ce verset exactement comme s'il voyait la chose qui se déroulait devant ses yeux. C'est-à-dire que quand on lit « Alimat nafsumma ahdarat » que le jour de Qiyama, chaque être humain va voir ce qu'il a cumulé comme œuvre, comme action dans sa vie, c'est-à-dire que quand je lis ce verset, ça doit dépasser le stade de « al-istima' » d'écouter le sens du verset. Ça doit dépasser même le stade de comprendre par le biais de la traduction. Ça doit dépasser le stade d'écouter avec admiration une parole d'Allah qui est belle. Ça doit devenir yaqin, une conviction. Exactement comme si que on est en train de voir le qiyamah qui se produit devant nous. On doit avoir une conviction inébranlable, en faire. Une conviction sans faille. C'est comme si que on va vivre ce moment en sortant de la mosquée. Ou alors que dans quelques secondes, le tribunal d'Allah va se mettre en place et alimat nafsumma ahdarat. C'est ça la conviction que le croyant doit avoir sur chaque verset. Si ce n'est pas encore le cas, ça veut dire que j'ai encore du travail à faire. Et qu'il n'y a aucune raison que je me repose sur mes lauriers. Je parle pour moi en premier. Il n'y a aucune raison que je sois fier de mes acquis, que je suis un bon croyant. Une citation qu'on avait expliquée lundi dans un programme en ville et qu'on avait lue sur un réseau, un des réseaux sociaux. Une personne avait cité Kalam, j'ai pas eu l'occasion de rechercher, c'était qui encore, Imam Ahmad, je sais pas quoi, mais des gens sérieux, disaient que si les sahaba, les compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, voyaient les plus pieux parmi nous, et parmi nous c'était le savant qui parle à son époque, pas 2014, si les sahaba voyaient les plus pieux parmi nous, ils se diraient que ceux-là n'ont aucune part dans l'au-delà. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'akhirat? C'est tellement insignifiant leur mode de vie. Et là, on parle des plus muttaqis du monde entier à l'époque de ce savant. Même pas là, peut-être, c'est Imam Ahmad, mais c'est à son époque. Ces sahaba auraient considéré que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? Ils veulent rien de l'au-delà? Ils ont une vie comme ça? Il dit, et s'ils regardaient les pires parmi nous, les gens normaux, ceux qui font des péchés, les normaux, hein, les gens qui font des péchés au quotidien, ils se diraient que ceux-là, ce n'est pas des mu'mines du tout. Ça passerait même pas par leur tête que ces gens-là, ils ont la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans leur cœur. Que dire de nous maintenant? Il dit que si nous, nous voyons, c'était lui la première phrase, si nous on voyait les sahaba, si on avait une possibilité de voir comment vit un sahaba, on se dirait que ces gens-là, ils sont fous, na'oud billah, ils sont pas sains d'esprit. Parce qu'on comprendrait pas comment est-ce qu'il peut y avoir des êtres humains qui consacrent toute leur vie, leur pensée, leur corps, tout pour Allah, Rabbul Izza. Le cœur, les yeux, le regard, tout c'est pour Allah. Ça, c'était la vie des sahaba, et ça, c'est le fossé, le décalage qu'il y a entre les sahaba et nous-mêmes. Donc, si en lisant Alimat Nafsumma Ahbarat, je n'arrive pas encore à ce stade de réaliser avec certitude que je vais moi aussi, je vais savoir ce que j'accomplis, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et donc, même si je connais le Coran par cœur, même si je suis un savant, en guillemets, même si je suis un bon croyant, régulier à la mosquée et tout, il n'y a aucune raison d'être fier de ce que j'ai œuvré. Mais plutôt prendre conscience que j'ai besoin de travailler la réalité de tout ce que je connais. Parce qu'il suffit d'avoir la réalité d'un seul verset pour que ça te guide durant toute ta vie. Il suffit de prendre conscience de n'importe lequel des versets qu'on a commentés jusqu'à maintenant, mais le comprendre comme les sahaba le comprenaient avec yaqin, pour que notre vie change complètement. Je vous demande à Allah Rabbul Izzah de nous donner ce tawfiq, de nous donner cette possibilité d'avoir une réelle connexion avec ces paroles. Que ça ne se limite pas à des versets qu'on entend, mais qu'on les vit. Inch'Allah, on arrive à les vivre réellement dans notre vie. Ensuite, après le verset donc 14, il y a encore des versets dans lesquels Allah Rabbul Izzah cite des ayats al-kawn, des signes qu'il y a dans la création. Fala uqsimu bil khunnas al jawari al kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas. Ça c'est du verset 15 à 18. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent. Alors là, franchement, ça c'est un langage de scientifique. Par la nuit quand elle survient et par l'aube quand elle exhale son souffle. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails concernant ces signes de la création, parce que ça, je vous dis clairement, je n'ai pas fait de recherche sur le système planétaire, les planètes qui naissent, qui se désintègrent, c'est des choses que je ne maîtrise pas, je veux dire sur le plan scientifique, et donc aller chercher des tafsirs qui rejoignent les découvertes, hein, découvertes en guillemets scientifiques, c'est quelque chose qui n'est pas dans mes compétences. Ça, il faudrait voir quelqu'un qui a fait des études scientifiques et tout, pour faire, ça serait intéressant, un comparatif entre ce qu'Allah Rabbul Izzah, hein, il explique que les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent. Mais les savants disent que, subhanallah, à cette époque, le prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, qui était ummi, qui était illettré, savait ni lire ni écrire, il habitait dans le désert, où à cette époque il n'y avait pas, j'allais dire, un télescope, tout le monde sait quoi un télescope, même pas une lampe de poche, voilà, chez, comment est-ce qu'il peut parler des planètes qui gravitent? Qui connaissait la notion de gravité? Même moi, si vous me demandez, je ne suis pas trop capable de vous dire, d'accord? Gravité, c'est tourner, non? Gravité, d'accord. Qui connaît la notion des planètes qui courent et qui disparaissent? Ça a été traduit en français par court. Al-Jawar et al-Kunnas. Mais bon, les traductions ne sont jamais fidèles. Jawar, c'est une autre connotation encore. Mais comment le prophète, alayhi salatu wassalam, pouvait-il donner une telle description du rythme des planètes, des naissances des planètes, des disparitions des planètes? Jour après jour, on ne finit plus de découvrir des planètes, on découvre des systèmes encore plus, des systèmes solaires encore plus grands que les nôtres, et ainsi de suite, on parle de poussière d'étoiles, c'est-à-dire des météorites et des planètes qui se désintègrent, d'explosions d'étoiles. Bref, c'est des notions qui sont très récentes, tout ça. Ça date de quoi? 50 ans, 60 ans? C'est-à-dire à partir du moment où l'être humain a inventé le télescope, où il y a eu des satellites, là il commence à avoir une vision de ce qu'il y a au-dessus de son nez. Autrement, la seule chose qu'on savait au-dessus de nous, c'était la vie des oiseaux. Autrement, plus que ça, on ne connaît rien. Mais on n'est pas parti là-haut. On n'a pas de visuel. Normal, le bogey ne connaît pas grand-chose. Maintenant qu'il y a des satellites, qu'il y a des trucs comme ça, on commence à découvrir des choses. Et là, pour l'instant, on voit bien que ce n'est pas Kalam ul Bashar. Ce n'est pas des paroles d'un homme. Parce qu'aucun homme ne savait ce qui se passait là-haut. Les hommes à cette époque, ils avaient peut-être découvert certains, je ne sais pas moi, des continents, ou alors ils avaient fait des découvertes certainement, d'accord, sur la vie des animaux, sur la manière de planter des dattes, sur la manière de ainsi de suite, forgerons d'autres sciences. Mais des planètes, personne n'est allé là-haut pour voir comment, qui a dit à un arabe dans le désert à Makkah, qu'il y a des planètes qui naissent, qui disparaissent, qui font tout ce trajet, ce circuit, ce rythme de vie. Ça, c'est bien. Parole d'Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un signe de plus que le Coran est vraiment là. La parole d'Allah, Rabbul Izza, la parole d'Allah. Si aujourd'hui, dans un congrès de scientifiques, quelqu'un vous explique des termes comme ça, on se dit que, ben ouais, c'est connu dans telle revue d'astronomie ou tel machin. Dit. Mais là, resituons le contexte, mes chers frères. On est à plus de 15 siècles où il n'y a aucune découverte scientifique, où il n'y a même pas d'avion, où personne n'imaginait qu'un jour l'homme pourrait voler dans un appareil ou autre chose. Il n'y avait même pas de montgolfier, pas de parachute, pas rien. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte ces paroles d'Allah concernant des planètes qui courent, qui disparaissent, les planètes qui sont en gravité et ainsi de suite. C'est bien là la révélation d'Allah azza wa jal. Il y a un autre signe qui est un peu plus facile à comprendre, point sur lequel on avait insisté un petit peu dans d'autres sourates. والصبح إذا تنفس non, والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس 17-18. Par la nuit quand elle survient et par l'aube quand elle exhale son souffle. Et les mufassirin rahimahumullah disent que voilà, dans ce verset on a également l'explication de l'alternance entre la nuit et le jour. Il dit que là, au-delà de la contemplation, d'accord, qu'est-ce qu'il faut retenir? De quoi il faut prendre conscience? Du pouvoir d'Allah. Allah, c'est le seul qui peut faire alterner jour et nuit. C'est lui qui ordonne au soleil de se lever, de se coucher. C'est-à-dire, quand on dit lever, coucher, c'est d'aller, après, de continuer à graviter, d'accord, et d'aller éclairer, d'aller illuminer d'autres zones du monde et d'apporter et de permettre à l'obscurité de revenir. Parce que Al-As, à l'origine, c'est l'obscurité. Et l'obscurité s'en va quand le soleil, quand les rayons du soleil touchent la terre. Et quand le soleil touche une surface de la terre, l'autre partie fait nuit. Ça, c'est clair. Donc, c'est Allah Rabbul Izza qui ordonne l'alternance entre la nuit et le jour. D'où le verset. Et avant de parler du verset, qui en dehors d'Allah peut ordonner cela? Qui en dehors d'Allah peut avancer ou reculer le lever du soleil d'une minute? Personne. C'est uniquement Allah Rabbul Izza. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ فَلَا تَسْمَعُونَ. Le verset de Al-Qasas 71-72, un peu long, dit que si Allah Azza wa Jal, en ce sens, nous fasse expliquer que si Allah Rabbul Izza avait décrété qu'il y avait que la nuit, est-ce qu'il y aurait une autre forme de vie? Il y aurait forme de vie sur la terre? Non, pas de soleil, pas de vie. Et si c'était que le soleil, est-ce qu'il y aurait une forme de vie? Non plus, parce que le soleil aurait tout brûlé, tout désintégré, et donc aucune forme de vie. Et c'est Allah seul qui est capable de faire alterner nuit et jour. Et un exemple un peu plus, quand on avait préparé le dars, hein, ça remonte, hein, depuis 3 semaines ou 4 semaines, c'est un petit peu le sujet d'actualité, c'était le passage du cyclone. Maintenant, c'est vieux, quand il y avait Béjiza, le cyclone, d'accord? Quand on voit le vent qui souffle, quand on voit cette pluie torrentielle et ce vent et tout ce qui se passe, les arbres qui tombent, bref, un cyclone, ben, j'ai dit que, ben, écoute, je vais téléphoner le préfet. Je dis, monsieur le préfet, il y a un problème là. il y a trop de vent. Alors, soit vous prenez des mesures, contactez le bureau du ministre de l'Intérieur, parce que sinon, nous, on va faire grève, on va défiler, et on va tout casser, hein, parce que ce vent-là, c'est plus possible. On est dans le pays des droits de l'homme, et le vent, c'est un obstacle à ma liberté. Donc, monsieur le préfet, par les pouvoirs qui vous sont accordés, nous souhaitons, en tant que citoyens de la République française, que vous ralentissiez ce vent. S'il vous plaît, merci cordialement, monsieur Intel. Envoyez cette demande en lettre recommandée et il vous envoie la SAMU et vous dormez à Saint-Paul, l'hôpital psychiatrique, dans l'Afia. On vous dira, mais écoutez monsieur, c'est les éléments qui se déchaînent. C'est la nature dans toute sa splendeur qui montre sa force et notre impuissance. Bref, des pros et des vers pour nous faire comprendre que on n'est pas capable. Nous sommes des êtres humains, nous restons des humains. La nature, qui peut arrêter une vague? Mettez des, comment on appelle ça? Des tétrapodes, mettez tout ce que vous voulez. Mais quand la vague, elle veut recouvrir la route du littoral, là, Kogé coup de roche, je suis par brise, là, personne n'y empêche pas. Faites ce que vous voulez. Mettez un mur, mettez ce que vous voulez. C'est Allah, Rabbul Izzah, a décidé que l'eau arrive, le vent arrive, le souffle du vent, ou alors l'orage, la foudre. Qu'est-ce qui s'est passé avec le... Je ne sais pas si c'est vrai ça ou c'est un fake. L'agriculteur au tampon, je ne sais pas, bras creux. Hein? La foudre est tombée, tout ce troupeau est mort. 20, 25 bêtes. Ajib ça. Est-ce qu'on peut dire au ministre de l'Agriculture ou alors le maire du tampon, je ne fais pas de politique, hein, c'est juste qu'on parle comme ça, dit monsieur, la foudre t'a tombé, viens, cale la foudre. Comme vous calez un penalty. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Jamais. Même Iron Man ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Même le 3 Iron Man, 4 aussi, même il amène toute sa race, il ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement important, c'est d'ouvrir les yeux. Tout comme on essaie d'ouvrir nos yeux avec le verset Alimat nafsumma ahdarat. Ouvre tes yeux, ya akhi, tu es face à un péché, ouvre tes yeux. Tu vas faire une erreur, ça c'est grave, ça ouvre tes yeux. Écoute pas ce morceau du cœur où il y a le sang noir qui te pousse à faire le péché. Parce que, à ma connaissance, ni moi, ni Bilal, ni Anwar, on n'a pas subi d'opération de la poitrine quand on était jeune. On se saurait sinon. D'accord? Donc, on a quelque chose qui nous pousse vers le péché. Inna nafsa la maratum bisou. C'est dans l'inéité, ça, de vouloir le mal. Et en plus, il y a Shaitan qui se mêle avec Allah, Yuasmi, Sufi, Sodorinas, qui vient foutre le problème dans nos têtes. Fais ça, il te cite tes vertus des péchés. Donc, quand tu vas faire un péché, ouvre tes yeux, Yahri. Ouvre les yeux du cœur, réalise que ça c'est mauvais. Prends conscience du verset et applique-le tout de suite. Pareil, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, dans la création des cieux, de la terre, ça c'est la ayatil li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Tout le verset, tout ce que nous voyons, nous devons en déduire que ça c'est la création d'Allah Rabbul Izza. Que les yeux du croyant s'ouvrent. Qu'on arrête de voir ça comme un beau paysage, comme mère nature, ou dame nature, ou grand mère nature. Ça, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Apprendre à méditer, à voir la grandeur d'Allah dans toutes choses. Ça, c'est important. Et si j'adopte cette manière de voir, d'entendre, de penser, c'est là que je deviens un bon mu'min intérieurement. Dedans, ça va devenir de plus en plus propre, et ça va se réjaillir, Inch'Allah, sur les jawarih, sur les membres. Ensuite, on passe à un autre couplet de versets, une autre thématique. Je pense qu'on ne va pas faire ça ce soir. Ça risque d'être long parce que si on commence après, il faut que ça se suive. Là, il y a une description de l'ange Jibril alayhi salam. Une description de l'ange, en français, quand on dit Gabriel, celui qui a apporté le wahi à tous les prophètes, celui qui a ramené la Taurat, le Zabur, le Injil. Suhuf Ibrahim wa Moussa, le Coran et tous les livres et livrés qu'Allah Azza wa Jal a accordé à ses anbiya ou à ses rusul, une description de l'ange Jibril alayhi salam, innahu la qawlu rasulin karim. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et on parle de l'ange Gabriel. Doué dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Alors, on verra ça la prochaine fois, mais déjà de tête, quand je dis ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, il y en a qui disent, ah bon? Le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Là, c'est comme si que littéralement, on dit c'est la parole d'un noble messager en parlant de l'ange Jibril. Et là, on voit encore une fois qu'il est. On ne doit pas s'arrêter sur une traduction. On doit voir les tafsirs, étudier le tafsir pour comprendre la connotation qu'il y a à travers ces mots et que ça veut dire que c'est l'ange Jibril alayhi salam qui apporte le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à certaines sectes qui existent en métropole, d'accord ? Et qu'Allah protège Arino de ces sectes-là, on n'a même pas besoin de citer le nom. Selon eux, effectivement, le Coran, c'est la parole de l'ange Jibril alayhi salam. A'oudhu billah. Le Coran, c'est là, c'est comme si c'est un ma'na, un sens qu'Allah donne et que l'ange Jibril, c'est lui qui va le dire par ses mots. Abadan, abadan. Les paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal est rapportée exactement comme il a été révélé par Allah à l'ange Jibril alayhi salam, qui est donc la parole du prophète sallallahu alayhi salam. Et ensuite, la description de la force, de la puissance de l'ange Jibril alayhi salam et de son rang auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous vous rappelez de l'histoire du Mi'raj? Au niveau de Sidratul Muntaha, comment il traduit le jugement céleste? À ce niveau-là, l'ange Jibril alayhi salam s'est arrêté. Et le seul qui a pu continuer, c'était Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les savants disent, voyez, le grade de l'ange Jibril, qui est proche du trône d'Allah, malgré ça, il a une limite. Et cette limite, le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, là, l'a franchi. Ça nous donne encore plus conscience de la grandeur du makana, du manzila, de la valeur également du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On verra ça, inshallah, la prochaine fois. Donc, à partir de vendredi, ce vendredi et les vendredis d'ensuite, on essaie, inshallah, d'être le plus régulier possible dans nos cours du vendredi soir. Et inshallah, on essaie de terminer à Takwir en deux ou trois semaines. Après, surat Takwir, on aura, inshallah, surat Abasa, Abasa wa Tawalla. Et puis, ben, mashallah, après Abasa, on aura Wannazi'at. Et puis, enfin, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et puis, Amma Itasa Aloun. Puis, on pourra dire qu'on aura complété un juz. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq d'avancer. Et que le plus important, c'est que nos yeux s'ouvrent et qu'on arrive vraiment à comprendre la beauté et la profondeur des versets et les mettre en pratique dans nos vies. Tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.